L'info du jour avec aujourd'hui Romain Azouka, responsable du damage à la société des Trois-Vallées. Romain Azouka, il y a tout dans votre titre. Vous pilotez le plan de damage pour chaque nuit de la saison d'hiver. Un plan extrêmement important puisqu'il détermine la qualité des pistes que les clients auront le lendemain dès l'ouverture. Alors pour commencer, et pour que nos auditeurs comprennent de quoi on parle, sur un domaine comme la vallée de Courchevel, combien faut-il de machines en service chaque nuit?
Bonjour, alors le domaine de Courchevel, ça représente 420 hectares de pistes où chaque nuit en moyenne on dame 66%. Aujourd'hui, on reste dans une politique de travail qualitatif et non quantitatif, où on a un parc de 21 machines à disposition pour entretenir le domaine skiable, où pour ce faire, il y a deux postes de damage, un poste d'après-midi qui va faire 17h30, 1h30, un autre qui fait 1h30, 9h30, avec en moyenne 17 chauffeurs par poste.
Vous y avez fait allusion, pour parvenir à faire tout cela en une nuit, il faut évidemment deux shifts, hein, les chauffeurs pour ces 21 machines, et il faut surtout beaucoup de coordination.
Je dirais que le produit, la finalité, donc le leitmotiv, ça reste la satisfaction client pour offrir le plus beau domaine possible. Aujourd'hui, c'est un travail d'équipe qui commence déjà par la partie mécanique, où aujourd'hui avec l'Altipole, le garage qu'on a, le centre technique avec des mécanos dédiés à l'entretien des machines, on a tous les soirs 100% du domaine à disposition, et après derrière, il y a un plan de damage qu'on découpe suivant la météo, suivant les besoins, suivant la fréquentation. Et aujourd'hui, ce qui nous a permis entre guillemets d'optimiser un peu ce plan de damage, en 2017 on a abordé un virage assez stratégique pour le site de Courchevel, où on a équipé l'intégralité de la flotte d'un GPS et d'un outil de gestion du damage qui nous permet dans un premier temps d'optimiser le régalage de la neige, qu'elle soit naturelle ou de culture, mais aussi d'optimiser tout ce qui est consommation des carburants, tant pour l'impact environnemental que pour entre guillemets la gestion des coûts derrière.
Alors on va y revenir justement, mais est-ce que comme pour une flotte d'avions pour les compagnies aériennes, vous avez une flotte de machines de diverses générations, parce qu'on se doute bien qu'on ne renouvelle jamais l'intégralité de la flotte en une fois par exemple.
Aujourd'hui on a la chance d'être dans une société, donc la SEM des sociétés des Trois-Vallées, qui entre guillemets réalise des marchés justement pour renouveler ces engins de damage, où pour le site de Courchevel et le site de Méribel, on change en moyenne 5 machines par année. Donc ce qui veut dire qu'une machine on la garde 5 ans, au bout de 5 ans elle est reprise par le constructeur et après elle part sur le marché de l'occasion pour d'autres stations ou à l'étranger.
Alors ça tombe bien si les machines n'ont jamais plus de 5 ans et que comme vous l'avez dit en 2017, vous avez commencé à réfléchir à ce qui était le plus opportun d'avoir. Est-ce qu'on peut dire que les machines ont beaucoup évolué au fil des années ?
Les machines ont évolué. Maintenant, on est sur de la technologie où c'est plus de l'électronique que de la mécanique pure. C'est d'ailleurs pour ça que nos mécanos, on les envoie régulièrement en formation parce que ça devient de plus en plus pointu. Et maintenant, c'est tout électronique au même titre que les voitures qui sortent aujourd'hui.
Aujourd'hui, la plupart de vos machines utilisent le fameux sonar.
Oui.
Et pas seulement d'ailleurs, parce qu'il y a aussi les couplets à un GPS, c'est bien ça? Comment ça marche?
Alors aujourd'hui, les machines sont équipées toutes d'un GPS différentiel avec une précision centimétrique. Donc on sera plus de l'ordre de 5 cm pour le régalage de la neige. Et ensuite, tout ce qui est plan de damage a été digitalisé, où en fait le chauffeur a sa tablette dedans. Il clique sur son nom, sa machine est répertoriée. Et après, les pistes à proximité de sa position GPS s'affichent. Et après, il réalise la tâche et il la quitte. Et elle s'en va de tous les autres écrans. Et à mesure, ça s'enchaîne comme ça. Le deuxième poste qui arrive à 1h30 du matin, il lui restera que les pistes qui n'ont pas été faites par le premier poste à faire en deuxième poste.
Pour qu'on comprenne bien à quoi servent ces appareils, le GPS, si l'on comprend bien, c'est effectivement pour se positionner, on va dire, sur la cartographie. Le sonar, lui, il permet de connaître la profondeur de la neige, c'est bien ça?
Le GPS, il ne sert pas qu'à se positionner d'un point de vue géographique. En fait, l'été, ce qu'on fait, on fait un relevé LIDAR, un relevé numérique de terrain quand on fait des travaux d'aménagement ou autre, pour reprendre un peu le profil d'été. Après, on l'intègre dans les machines et en fait, l'écran qu'il a dedans, il a une carte de hauteur de neige graduée suivant ce qu'il a besoin, de 0 à 10, de 10 à 15, ainsi de suite. Et ensuite, il va voir sur sa machine la neige qu'il a dessous et devant lui la neige où est-ce qu'il faut la mettre. Et en fait, il va régaler sa piste comme ça. La finalité qu'on a, entre guillemets, abordée en 2017, c'était de dire sur chaque piste de ski, c'est pas de la refaire de A à Z, c'est vraiment aller à l'essentiel et de conforter vraiment les zones qui étaient érogènes.
Ces équipements sont devenus indispensables, j'imagine, aujourd'hui, compte tenu des épaisseurs de neige moins importantes ces dernières années.
Aujourd'hui, quand on voit les phénomènes météo qu'on traverse depuis quelques années, ça devient indéniable de s'équiper. Après, il existe d'autres systèmes. systèmes. Nous, on a le système SnowSat, mais il y a d'autres systèmes qui existent aussi. Aujourd'hui, ça devient indéniable de s'équiper de ce système-là pour arriver à optimiser la neige, mais aussi à optimiser derrière les coûts de production, tant pour la partie humaine que la partie technique.
Est-ce qu'il a été difficile parfois, justement, de faire le plan de damage dans les périodes où on n'a pas eu de neige pendant plus de 15 jours, je crois, 3 semaines ?
C'est pas que ça a été compliqué, c'est qu'aujourd'hui, ce qui a été assez problématique, c'est qu'en plein mois de février, on avait des conditions printanières où aujourd'hui, au-delà de la partie damage, j'ai envie de dire, on a une installation de neige de culture assez performante où on arrive à conforter dès l'instant qu'on a les créneaux de froid le manque de neige naturelle par de la production de neige.
Romain Azouka, une petite précision qui n'est pas un détail. Vous avez fait un choix depuis les championnats du monde qui est important, c'est que vous avez décidé de changer le type de carburant sur l'intégralité de vos chenillettes, n'est-ce pas ?
Oui, depuis post-championnat du monde, sachant qu'on l'avait déjà testé. Donc aujourd'hui, on avait un petit peu, c'était pas forcément une mégarde, c'était un point de vigilance par rapport au comportement de la motorisation de nos machines, en passant du gasoil non routier à l'HVO, où on s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'air de problématique. Donc depuis.
Rappelez-nous ce qu'est l'HVO.
L'HVO, c'est un carburant à base d'huile, un peu d'huile végétale. Aujourd'hui, on a passé entièrement toute notre flotte d'engins de damage à l'HVO. Donc on a commencé post-championnat du monde, donc fin février 2023. Et depuis le début de saison, là, toute notre flotte tourne à l'HVO. Aujourd'hui, en termes de consommation, on n'a pas relevé de différence significative entre le GNR et l'HVO. Le gros point positif en termes de RSE, c'est qu'aujourd'hui, on dégage 20% de CO2 en moins sur nos engins de damage.
Alors, les chenillettes les plus sophistiquées sont, j'imagine, sans doute aussi celles qui ont des treuils, en fait, celles qui permettent de remonter la pente les plus fortes, ce sont sans doute celles qui demandent le plus d'entretien.
C'est pas celles qui demandent le plus d'entretien, j'ai envie de dire, celles qui vont demander le plus d'assiduité et de contrôle du chauffeur quand il va s'en servir la nuit. Où aujourd'hui, c'est vrai que du fait qu'il y a le treuil qui est ajouté sur la machine en elle-même, c'est des machines qui deviennent très très fragiles. Et justement, vu que maintenant c'est plein de capteurs et d'électronique, ça devient très très sensible, où la moindre panne peut être problématique justement pour l'exécution du plan de damage, mais aussi d'un point de vue financier, parce que derrière, ça va engendrer des coûts qui seront non négligeables.
Romain Azouka, on voit souvent les vacanciers s'arrêter pour regarder les machines, surtout quand elles sont en train de travailler dans les murs qui sont proches des centres stations. C'est vrai que vous formez un monde assez méconnu et les vacanciers sont très intrigués, voire très intéressés par le fonctionnement de ces machines. Vous vous rendez compte de ça ?
On s'en rend compte. Après, on est assez sollicité justement pour faire découvrir ces machines. Aujourd'hui, on n'est pas rentré dans ce créneau-là d'un point de vue juridique et d'un point de vue assurance, ou entre guillemets, faire monter une personne extérieure de l'entreprise dans une chenillette. S'il viendrait y avoir un incident, ça pourrait être dommageux pour l'entreprise.
Comment est-ce qu'on devient chauffeur de chenillette ?
Chauffeur de chenillette, alors depuis 2012, et maintenant ils ont mis en place un certificat de qualification professionnelle, entre guillemets, pour la reconnaissance du métier, où historiquement, jusqu'à maintenant, c'était des gens qui venaient des travaux publics ou du bâtiment ou du monde de la nuit qui rentraient dans ce cursus-là et après qui continuaient à évoluer là-dedans. Maintenant, la plupart du temps, c'est des gens qui viennent des travaux publics, où l'été, ils ont déjà une sensibilité par rapport aux engins, une vision un peu de modelage, un peu du terrain, où c'est pas forcément une sens exact, mais la plupart du temps, c'est ces gens-là qui vont se porter candidat pour devenir chauffeur d'engin de damage.
On sait l'importance que revêt la qualité du damage, car il permet aux vacanciers de repartir sur une copie neuve, hein, chaque matin. Mais le damage doit être évidemment soigné pour arriver à obtenir le billard, hein, c'est toujours votre objectif. C'est une vraie compétence, là, pour le coup.
Aujourd'hui, on a aussi les moyens un peu de nos ambitions. Aujourd'hui, on reste sur un schéma vraiment qui est de travail qualitatif au quantitatif. Aujourd'hui, même si on a des conditions météo, on l'a vu en février, on va plus enlever deux passes sur deux, trois pistes plutôt que de faire, entre guillemets, une piste complète avec derrière ce qui peut être problématique en termes de résultats et qui peut engendrer des secours en journée.
C'est quoi la belle piste ? Celle qui n'a pas de bourrelet ? Celle où les différentes passes ne se voient pas ? Ça, c'est le Graal ?
La belle piste, c'est celle qui n'a pas de marge de chaque côté, où la personne qui sort ne va pas se faire mal, avec pas de décalage entre les passes et un rendu vraiment fini où il n'y a pas de gratons de surface qui vont être entre guillemets pas forcément agréables à skier.
Est-ce que S3V participera cette année au championnat de France des dameuses ?
Alors c'est pas cette année, c'est une année sur deux. Cette année c'est le Maintain Planet, mais chaque année on envoie bien sûr un équipage représenter la station de Courchevel au challenge des engins de damage.
Romain Azouka, je rappelle que vous êtes le responsable du damage à la Société des Trois-Vallées. Merci d'être venu en cette journée pour nous en parler.
Merci.